Vous écoutez RTL.
Il est 9h sur RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences d'Audrey Tautou, non à propos de son dernier film, mais pour sa dernière exposition en tant que photographe à découvrir dans le cadre des Rencontres d'Arles, c'est le coup de cœur de Monique Younes. Depuis deux ans, le parcours de la chanteuse Jane est spectaculaire, artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique, un premier album écoulé à plus de 300 000 exemplaires et des concerts tout l'été. Stephen Bellery l'a rencontré, vous la retrouverez avec Éric Jean-Jean ce week-end sur notre antenne. Au menu des express de Charlotte Arrigoni, Dépêche Mode, le retour de Doc Gynéco et on vous révélera le nombre de romans qui paraîtront à la rentrée de septembre. Et puis ce soir, sur France 3, Georges Pernou présentera pour la dernière fois le magazine Thalassa. Il en était l'animateur depuis 42 ans. On entendra son émotion et Laurent Marcy qui a joint le navigateur Yvan Bourgnon, qu'il saluera.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Monique Younes, une rencontre exclusive ce matin avec Audrey Tautou qui expose pour la première fois dans le cadre des Rencontres d'Arles ses œuvres photographiques. Je le dis comme ça pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit de photos qu'Audrey Tautou a prises. Donc l'actrice devient en quelque sorte photographe. Racontez-nous tout ça.
Alors ça ne date pas d'hier en fait. Pour tout vous dire, Audrey Tautou possède un appareil Nikon depuis l'âge de 11 ans et au moment où elle est devenue en 2001 une actrice mondialement connue grâce à Amélie Poulain, elle commençait plus secrètement une carrière de photographe. Alors tous les journalistes qui l'ont interrogée à l'époque se souviennent qu'elle leur demandait à la fin de l'entretien si elle pouvait les prendre en photo. Ils pourront se reconnaître dans cette installation de plus de 300 clichés exposés à l'abbaye de Montmajour. Sur chaque photo, Audrey Tautou a méthodiquement inscrit le titre du film dont elle faisait la promotion, le lieu de l'entretien, l'heure et le nom du journaliste.
Je passais tellement de temps avec toutes ces personnes que je reverrai a priori jamais, que j'avais besoin de garder une trace, peut-être parce que j'avais envie de témoigner de cette espèce de tourbillon qui a pu m'arriver et que j'ai trouvé un peu curieux, enfin qui n'était pas forcément très naturel ou désiré pour moi.
Alors ces clichés constituent en fait une sorte de journal d'Audrey Tautou dans lequel on la suit, enchaînant les interviews partout dans le monde, toutes les 5 minutes, 11h42, 11h49, midi. On n'imaginait pas qu'il y ait autant de journalistes travaillant sur Audrey Tautou. Ça donne une idée de sa vie, ça la raconte à travers ceux qui la regardent.
Alors c'est très conceptuel tout ça?
Mais intuitif, dit plutôt Audrey Tautou. Et ça n'est pas fini, car elle s'est prise en photo elle-même, et là l'exposition prend une toute autre tournure.
Hommage au photomaton qui l'a rendu célèbre.
Peut-être. Alors, il y a deux séries d'autoportraits. Dans la première, elle se photographie à l'aide d'un savant jeu de miroir qui lui permet de se surprendre dans des expressions et des poses naturelles, pas toujours à son avantage d'un point de vue publicitaire. C'est Tautou, femme ordinaire, dans sa loge de théâtre en train de se préparer, chez elle avec un masque de concombre sur la figure. Des photos pleines d'humour, souvent, de malice, de vérité. Et la seconde série, à mes yeux la plus intéressante, propose des autoportraits posés. Là, on peut dire qu'elle réalise un vrai travail d'artiste avec un propos, une esthétique, une recherche qui donne un éclairage sur tout ce qui précède. Et on comprend que c'est à ça qu'elle voulait en venir.
C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est que je travaille en argentique et qu'en effet, comme ce sont des autoportraits, je suis donc celle qui déclenche. Et comme je m'occupe de tout toute seule, que ce soit les décors, les accessoires, les costumes, la prise de vue, les lumières. Et donc c'est vrai que j'ai une énorme quantité de contraintes techniques, de contraintes météorologiques. Donc j'ai quand même la sensation de me transformer en MacGyver quand j'entame une prise de vue et que je veux obtenir ce que je veux sans en avoir ni le matériel, ni les moyens, ni suffisamment de bras, ni suffisamment d'aide. À chaque fois, c'est compliqué parce que quand j'ai suspendu mes petites robes noires dans cette forêt, de devoir trouver une barque, de devoir fabriquer un système pour pouvoir les accrocher et puis les laisser pendus toute la nuit parce que je pouvais faire ma prise de vue que le lendemain. Et là, cette nuit-là, il y a un énorme orage et je me dis, mon Dieu, mais j'ai retrouvé toutes mes tenues dans la mare. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et je fais mes photos en argentique. Je ne sais pas si elles sont bonnes et à l'ancienne, quoi. Et je découvre le résultat en me disant pourvu, pitié, pitié, pourvu que j'en ai au moins une que je puisse utiliser, parce que voilà, chaque photo, c'est, il me faut, je sais pas, entre 15 jours et un mois pour tout préparer.
Alors vous découvrirez à l'abbaye de Montmajour Audrey Tautou, nue, au bord d'une rivière, Audrey Tautou allongée sur un divan, envahie par une centaine de sacs à main, Audrey Tautou en garde à vue au poste de police, une quinzaine d'autoportraits narratifs à travers lesquels Audrey Tautou met en jeu son image, sa notoriété, son personnage public, forcément en conflit avec sa personne. Et le résultat est, croyez-moi, passionnant.
Alors pourquoi a-t-elle mis si longtemps, finalement, à nous montrer son travail ?
Eh bien, c'est exactement la question que je lui ai posée.
Incroyable.
C'est qu'à un moment, je ne pouvais plus garder tout ça pour moi. Disons que c'est un projet que je n'ai pas prémédité. La seule chose, c'est que je sentais que j'avais des éléments et qu'à un moment donné, ça se mettrait en place. Et c'est aussi une façon de se connaître et d'assumer qui on est. Ce qui s'est simplement passé, c'est que il y a eu un moment où je ne pouvais plus continuer à être qu'actrice. C'est-à-dire que, oui, je suis actrice, mais je suis aussi autre chose, quoi.
Voilà. Je suis aussi photographe.
Oui, je suis aussi... Enfin, je suis photographe, mais je crois que je suis quelqu'un qui doit accepter qu'elle ait besoin de s'exprimer par d'autres moyens que le cinéma. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup été au service des autres. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être plus à mon service. J'ai envie de me consacrer à mes projets personnels, en fait.
Voilà, et on se rend compte à l'abbaye de Montmajour que la photographie est une vraie passion pour Audrey Tautou. Mais le cinéma la rattrape d'une certaine façon, puisqu'elle a voulu faire le making-of de ses autoportraits. Alors vous verrez de très courts films tournés comme en time-lapse, de telle sorte qu'on la voit construire son décor, régler les lumières. Tout ce que vous vouliez savoir sur Audrey Tautou, photographe, vous est révélé. C'est passionnant. C'est à l'abbaye de Montmajour, dans le cadre des Rencontres d'Arles, dès lundi 3 juillet. Rencontre dirigée par Sam Sturze, qui propose cette année un programme exaltant. Vous avez jusqu'au 24 septembre pour le découvrir. Le titre de l'exposition des œuvres photographiques d'Audrey Tautou, Superfaciale.
Elle a d'ailleurs photographié Stéphane Boutsock.
Elle a bien évidemment photographié Stéphane Boutsock, oui, comme tous les journalistes qu'elle a eu à croiser.
On se retrouve dans un instant. Ah non, on peut les faire maintenant. Ben, c'est parfait. Alors, les audiences avec Médiamétrie et Laurent Marsic, audience télévisée de la veille.
Alors, en tête hier soir, juste un regard, la série avec Virginie Ledoyen sur TF1 a plus de 4 500 000 téléspectateurs, 19,7% de part d'audience. Et on va signaler le très bon score de Secret d'Histoire sur La Reine Margot, présenté par Stéphane Bern. Sur France 2, 3 107 000 téléspectateurs et 14% de part d'audience.
On se retrouve dans quelques instants, Laurent, pour notre soirée télévisée. Et en particulier, eh bien, le passage de témoin qui a lieu à l'émission Thalassa. Ça se passe sur France 3. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Évidemment l'une des révélations de la saison. Son premier album Zanaka a séduit plus de 300 000 acheteurs. Sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique, Jen termine cet été sa longue tournée. Bonjour Steven Bell.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré la chanteuse de 25 ans. L'occasion de faire un premier bilan.
Oui, Jane de passage à RTL pour l'enregistrement d'un grand studio exceptionnel qui sera diffusé demain samedi à 15h. La chanteuse s'est imposée doucement mais sûrement comme l'une des sensations musicales de ces deux dernières années grâce à sa world pop enlevée. Elle se produisait le week-end dernier au mythique festival anglais Glastonbury. Elle sera au non moins prestigieux Lollapalooza de Chicago début et elle a encore 12 dates chez nous en France. Comment vit-elle cette fin de tournée ? Réponse de Jane.
À la fois, je commence à être très fatiguée, en même temps j'ai pas du tout envie que ça se termine et je suis très émue à chaque fois que je pense à la fin en fait. Du coup je suis un peu partagée entre deux émotions un peu extrêmes. Moi j'avais vraiment aucune attente en fait quand l'album est sorti, je pensais pas qu'il allait plaire autant, je pensais pas qu'il allait avoir cette courbe là en fait de succès, parce que c'est vrai que c'est vraiment allé petit à petit. On a commencé la tournée dans des tout petits clubs pour finir aujourd'hui dans des arènes, donc c'était vraiment une très très belle histoire et surtout de très belles rencontres humaines aussi. Avoir un public, c'est jamais acquis. Je dirais que c'est le début, que ça reste à confirmer, que tout peut s'arrêter. Bah, quand j'étais ado, moi, oui, je rêvais de succès, évidemment, mais après, ça s'est vite inversé. Là, c'est vite devenu seulement la musique, que la musique et toujours la musique, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir réunir les gens autour de quelque chose, en fait. Quand je regarde mon public, il a vraiment de 6 ans à 60 ans, et c'est ça que je trouve beau dans la musique.
Un public qui a vite été conquis par cet artiste qui se joue des codes et aime les contrastes, qui mélange rythmes africains et boucles électro, basket et robes à col Claudine, hommage à Myriam Makeba et clin d'œil à René Magritte, Jane est inclassable et populaire, même au-delà de nos frontières. A-t-elle compris pourquoi sa musique a touché le public? C'est la question que je lui ai posée.
J'ai peur de m'enfermer dans un style, dans quelque chose. Si je me pose cette question, qu'est-ce qui a plu? Comment je peux le refaire? Du coup, on va vite tomber dans un schéma systématique. J'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Ce qui a plu, c'était le contraste et le mélange de plusieurs styles et ce truc qui fait un petit peu voyager.
Percer à l'étranger, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau? C'est une belle surprise?
Ouais, c'est un bonus. Je suis déjà très contente que ça marche en France, mais que ça marche à l'étranger. En plus, ça fait un peu aussi partie de mon histoire parce que j'ai commencé à écrire à l'étranger. Donc, le fait que cet album voyage aussi. Comme j'ai pu voyager, ça me touche beaucoup.
On vous a beaucoup parlé aux États-Unis dans les interviews de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Ça vous a gonflé? Ça vous a étonné?
Non, ça m'a ni gonflé ni étonné parce que voilà, je suis française et effectivement dans mon album il y a des influences africaines. Je suis blanche et voilà, aux États-Unis et même en France il y a un gros débat sur ce sujet qui a lieu d'être. Ils n'étaient pas au courant de ma propre histoire non plus, que ma mère est métisse malgache, que j'ai vécu au Congo. Et il suffisait simplement d'expliquer ça pour qu'ils comprennent et qui fasse plus le rapprochement avec l'appropriation culturelle.
Porte bien son nom. Hein. Alors, est-ce que Jane pense déjà à la suite?
Oui, depuis plusieurs mois déjà, elle griffonne des idées qui lui viennent de diverses manières.
Bah, j'écoute beaucoup de musique, je rêve beaucoup. En fait, je peux passer des heures à rien faire. Je lis, je vais au cinéma, je sais regarder les gens dans la rue beaucoup. J'ai une petite appli texte sur mon portable et j'enregistre voilà, ce que j'appelle les punchlines en fait, pour de futures chansons que je peux remettre par-ci, par-là. Ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir prendre le large, oui, ça c'est sûr. Après, je suis allée à l'étranger, mais toujours en rapport au travail. Donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte de partir un peu loin et de me ressourcer un petit peu. Prendre du recul aussi, s'éloigner du travail, de la musique un petit peu aussi, ça fait quand même du bien. Reconstruire sa santé aussi, c'est se reposer en fait.
Est-ce que ça veut dire que son deuxième album est déjà concret dans son esprit, Steven?
Oui, elle le révèle sur RTL. Enregistrement à l'automne, sortie prévue l'an prochain.
J'ai écrit toutes les démos, on va rentrer en studio en octobre. Et ce sera encore un album qui sera différent du premier, mais qui mélangera encore plein de styles différents.
Qui aura une couleur plus hip-hop?
Oui, non, c'est vrai que j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup de hip-hop. Et le hip-hop, aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment une musique qui parle au futur. À la fois, dans le hip-hop, on a de l'électro, des fois, on a de la musique cubaine, des fois, on a des vieux samples d'Otis Redding. Et c'est moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est ce mélange-là de tous les styles pour former qu'un seul.
Toujours en anglais?
Toujours en anglais, avec peut-être une, voire deux chansons en français. Pour le challenge, toujours. Je pense pas que je vais garder la petite robe à col Claudine, même si je l'adore, pour le deuxième album. Donc c'est réfléchir à, voilà, à l'évolution de ça, en fait.
Jane chante demain dans le grand studio RTL à 15h, puis elle ira au Main Square d'Arras le 6 juillet, aux Eurocaennes de Belfort ou encore à Rock en Seine le 26 août. Son album Zanaka est toujours disponible.
Ooh, makeba, makeba, makebella, gotta, gotta, ooh. c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup, Steven Bellery.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Le rappeur Doc Gynéco est bientôt de retour. On découvre ce matin sa première chanson inédite en fait depuis 2008.
9 ans après Peacemaker, le Doc sera de retour cet automne avec un 7e album influencé par un récent voyage en Afrique, de nouvelles sonorités, des textes très inspirés par la société et notre quotidien. Le tout premier extrait enregistré à Abidjan en Côte d'Ivoire s'appelle « Ça va aller ».
Après 2-3 va-et-vient, il ne t'a jamais rappelé. T'es resté là avec les gosses, tous les jours poissons panés. Dans les transports en commun, toujours les mêmes colis suspects. Ton phone qui ne sonne pas, le mois d'août au quartier. Y'a Maître Gims qui te répète qu'il va te manquer, qu'il va te manquer.
Mais Doc, ça va pas avec mon mec.
T'inquiète pas, avec moi.
Ça va.
Ça nous plaît bien.
Mais ouais.
Ça va aller, premier extrait du 7e album de Doc Gynéco, attendu à l'automne.
Alors, les vacances commencent à peine, mais alors la rentrée littéraire, ouf, là, elle est déjà prête.
Oui, hein. On connaît le nombre de nouveaux romans qui paraîtront à partir de fin août, 581.
Et Bernard Lehu les aura tous lus
oui,
pendant les trois
brouettes
en vacances.
Un chiffre révélé par le magazine Livre Hebdo, légèrement supérieur à celui de l'an dernier, 560. 390 romans français, dont 81 premiers romans et des têtes d'affiche, bien sûr. Amélie Nothomb, Éric Orsay, Marc Duguin et Philippe Besson, dont le livre sur l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron aura pour titre un personnage de roman et il sortira le 7 septembre.
C'est l'événement du week-end, le groupe Dépêche Mode sera demain en concert au Stade de France.
Dépêche Mode, qui règne sur la pop synthétique depuis 35 ans, lance la saison des concerts au Stade de France. Et confidence étonnante de Martin Gore ce matin sur RTL, l'auteur et guitariste du groupe a confié que lui et Gabe Gahan découvraient au dernier moment la scénographie de leur spectacle et pour cause, ils laissent leur réalisateur Anton Gorbin gérait leurs installations scéniques depuis 1986.
C'est toujours très intéressant pour nous de passer de la production aux répétitions, découvrir la scène et toutes les vidéos qu'Anton Corbin a préparées. On lui fait tellement confiance que l'on attend jusqu'à 4 jours avant la première. On travaille ensemble sur quelques idées de base, donc on sait globalement sur quoi il travaille, mais on espère toujours qu'il ne fasse pas n'importe quoi. On a aussi travaillé avec des créateurs. Nos tenues seront très différentes de nos précédentes tournées. On a grandi en pleine période glam, donc on est difficilement impressionnable. Ça reste ancré en nous. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de monter sur scène avec nos habits de tous les jours.
Micro, Steven
Bellery. Marina Giraudot, elle est en vrille, elle ira au concert, elle adore. Elle m'en parle depuis 4 ans.
Oui, elle est en vrille,
ah,
c'est
ben
vrai.
Voilà. Merci beaucoup Charlotte, c'était des express de Laissez-vous tenter. On se retrouve dans quelques instants avec Laurent Marsic et toute l'équipe. En fait, on va dire au revoir à Georges Pernoud.
RTL Matin, Laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Laurent Marsic, à la télé ce soir et ce week-end, on va commencer d'abord avec un adieu, celui de Georges Pernoud qui présente son dernier Thalassa. Ce sera bien entendu sur France 3 et à 20h55.
Ouais, clap de fin après 42 ans de bons et loyaux services pour Georges Pernoud qui quitte donc France 3 et laissera sa place en septembre à Fanny Agostini, transfuge de BFM TV. Thalassa a débarqué le 27 septembre 1975 sur l'antenne de celle qui s'appelait encore FR3, une demi-heure à l'époque le samedi à 20h. Et ce soir, c'est donc un Georges Pernoud fier qui partira, même si, comme il le dit au micro d'Isabelle Morini-Bosque.
On m'a aidé à passer ce cap. Le monde change, et moi aussi. Donc, c'est bien que Thalassa continue, même si je pars en retraite. Je ne sais pas ce que je ferai après, mais je vais aller me reposer un peu en Dordogne, et puis après, je me remets au boulot. Un autre, peut-être. Il y a eu une période là, où j'étais pas bien. J'étais pas bien, parce qu'il se passait des choses et tout, et que je ne savais pas très bien ce que je devais faire. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce que je me bats? Pour moi, le monde était en train de changer. Non, mais j'ai une petite idée à la tête, je vais voir. Mais je travaillerai pas là, quoi. C'est fini, là. C'est fini.
Voilà, il dit ce matin, hommage d'un navigateur qu'il connaît bien. C'est Yvan Bourgnon. Et Thalassa, pour lui, c'est ça.
À la fin, moi, ça représente principalement les deux arrivées de Route du Rhum de mon frère en 94 et 98. Ça m'a aussi fait rêver, alors que c'était simplement mon frère, mais voilà, j'avais vraiment trouvé que c'était à l'image de ce qu'avait pu faire de bien Talassa. Ça m'a évidemment aussi, moi, donné l'envie de parcourir tous les océans. Genre, il faut lui souhaiter un bon vent, et puis voilà, il a fait arriver plusieurs générations de personnes, et on lui souhaite aussi maintenant que du bonheur. Il a encore quelques aventures à vivre, et il ne va pas lâcher le morceau tout de suite. Hein.
Alors, vous vous rendez compte que la liaison n'est pas excellente? Tout simplement, parce que Yvan Bourgnon est au bout du monde. Il est en train de tenter le premier franchissement du passage du nord-ouest de l'Atlantique au Pacifique par le nord. Oula. Il est en Alaska, en catamaran de sport, sans moteur, sans assistance, sans habitacle. Il se dirige à l'aide du soleil et des étoiles. C'est inédit. Ça donnera lieu d'ailleurs à un documentaire sur Canal+. Et en fait, c'est ça aussi, Talassa, des aventures d'hommes, de passionnés, comme l'homme à qui l'émission ce soir va en quelque sorte rendre hommage aussi, Alain Conan, un passionné d'histoire et surtout d'une histoire, celle du comte de La Pérouse. Alain Conan, il a disparu en mer en mars dernier et il a passé sa vie à tenter de reconstituer l'épopée du comte de La Pérouse qui a disparu en 1788, envoyé par Louis XVI en mission scientifique tout autour du monde. Les deux frégates de La Pérouse ont fait naufrage dans l'archipel des îles Salomon. Y a-t-il eu des survivants? Reste-t-il des traces? Et c'est une enquête policière en mer et sur terre qu'on va découvrir. Il va y en avoir des découvertes, comme ce moment où il tombe sur cet arbre étrange.
Cette plante ici qui ressemble un petit peu à du buis, qui est tout à fait particulière et que ni Christian ni moi n'avons jamais vu nulle part ailleurs.
Philo, t'es mala.
Mala, ça veut dire l'homme blanc, mala. Parce qu'ici, ils ont souvent dit, toi, mala, mara, machin, le marin. Mais en fait, mala, c'est l'homme blanc.
Donc, Philopé mala, c'est l'arbre des blancs. Ces arbustes auraient-ils été implantés dans l'île par les rescapés? Mais dans quel but?
Et suivra le clap de fin donc pour Georges Pernoud.
Oui, qui sera donc, on l'a dit, remplacé par Fenia Agostini à la rentrée, ex-présentatrice météo de BFM TV. Georges Pernoud lancera donc ce soir pour la dernière fois.
Je vous dis simplement merci. C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.
Talassa ce soir sur France 3 à 20h55, quoi d'autre ce week-end?
Alors samedi, j'ai un petit faible pour le Star sous hypnose présenté par Arthur sur TF1 avec Mesmer, le fascinateur. Je sais que Steven aime beaucoup, en plus il va tenter une expérience avec les téléspectateurs.
Il est incroyable.
Et puis dimanche, j'avoue que je me laisserai bien tenter sur Arte, qui rediffuse l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, en flic cru et dur. C'est un flic qui va inspirer à la télévision deux autres policiers, Rick Hunter et très certainement le commissaire Moulin, l'inspecteur Harry et, souvenez-vous, son fidèle compagnon, son revolver.
Ceci dit, posez votre artillerie.
Quoi?
Parce que nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
Qui c'est, nous, connards?
Smith, Wesson et moi.
Dimanche soir sur Arte, 20h45.
Ça me rappelle quasiment mon enfance. Eh bien, je vous remercie, Laurent Marsic, qu'on a passé un bon moment. On se retrouve dans quelques instants pour se dire au revoir avec toute l'équipe et accueillir, comme chaque jour, Julien Courbet. Jen, pour passer un bel été sur RTL, ça sera pas mal.
Cette chanson s'appelle Dynabit et ceux qui ont acheté l'album Zanaka se disent peut-être pourquoi elle n'est pas dans l'album. C'est parce que c'était un inédit de la réédition de Zanaka sorti à la fin de l'année. Donc vous pouvez le télécharger sur internet si vous ne l'aviez pas sur votre album.
Il sait tout sur tout, c'est épuisant. Monique, Charlotte, Laurent, Steven, ils vous donnent tous rendez-vous lundi. Vous serez accompagnés par Jérôme Chapuis. Moi, je les retrouve avec grand plaisir dès la fin du mois d'août pour la rentrée d'RTL. Mais oui, mes enfants, je vais partir en vacances. Vous allez me manquer. Enfin, un peu.
Vous nous écouterez.
Monique me regarde avec un air totalement désabusé. Bon, allez, nous, on va retrouver tout de suite notre camarade Julien Courbet.
Je ne peux que vous remercier. Une nouvelle fois... Vous nous informez magnifiquement bien. J'ai beau essayer d'aller écouter ailleurs, je ne peux pas. Je reviens toujours à vous parce que vous êtes le meilleur. Et puis c'est tout. Que les choses soient dites une fois pour toutes.
Elles le
sont. Bonne journée. Nous avons du